Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Dieu ou le monde, c'est le titre de cette série des clés pour vivre, mais c'est surtout le titre de votre ouvrage, dont Maxence Bertrand est bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Nous enregistrons ici à Lourdes. Dans cet ouvrage et ses différents chapitres, un chapitre s'intitule « Chercher en gémissant ». Donc il y a des sous-titres, « Souffrir pour trouver la vérité »,« Souffrir pour par la vérité ». Ce chapitre est important pour vous. Qu'est-ce que vous avez voulu donner au lecteur et qu'est-ce que vous pourriez dire ici, en radio, pour non pas les lecteurs, mais les auditeurs qui vous écoutent,
hein. Oui, merci. Ouais. En fait, donc, le livre, c'est toujours cette question de comment le chrétien se situe devant le monde, dans le monde. Et dans les différentes attitudes qui sont autant de critères de discernement de notre relation en fait, au monde, à la société, aux personnes qu'on rencontre. Une de ces attitudes-là m'a été inspirée par Blaise Pascal, qui dit en effet dans notre relation, dans notre rencontre du monde, est-ce que je suis encore en train de chercher Dieu ? Est-ce que je sais et ou est-ce que je cherche encore ? Peut-être un peu des deux, parce qu'il y a des choses qui me sont révélées. Et donc, il dit en particulier, dans la foule de ceux qui ne connaissent pas Dieu, je fais une immense différence entre celui qui cherche en gémissant et celui qui ne cherche plus, qui ne cherche pas. Et il interroge le chrétien en disant, et toi à qui le Christ t'est apparu ou qui a la foi, est-ce que tu continues à chercher ? Alors, ça rejoint aussi toute une longue tradition, hein, celle de Saint Benoît, est-ce que dans le monde... Je suis encore un chercheur de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que ce thème-là m'apparaît, et en particulier, ça peut paraître un peu fort comme expression chez Blaise Pascal, chercher en gémissant, mais reste que c'est quand même dans l'épreuve, souvent, qu'on a le plus à chercher Dieu.
Et au fond, voilà. La tempête.
Et la tempête, oui. Et toutes les crises qu'on peut vivre, personnelles, sociétales, etc., sont des moments où on se pose la question, comme les apôtres dans la barque, où est-ce qu'il est ?
Alors, quand ce moment arrive où on ne cherche plus, où on s'installe, je ne vais pas vous appeler docteur, mais dont Maxence Bertrand, est-ce que c'est grave ?
C'est grave si ça se prolonge. Enfin, c'est toujours un peu ennuyeux, en fait. C'est grave si ça se prolonge, c'est-à-dire les moines parlent, vous savez, de l'ascédie, cette espèce de déprime un peu spirituelle où on ne trouve plus goût aux choses de Dieu. Si ça se prolonge, alors c'est sûr que bien souvent, en fait, ce sont les contrariétés des jours, les épreuves et les personnes qui sont autour de nous qui nous réveillent un peu l'âme. Voilà. Et c'est très nécessaire.
Voilà. Alors, un extrait de votre livre, hein, où vous écrivez « La vérité coûte, hein. Il faut se méfier d'une vérité qui est claire, sans brûler quelques scories. Il faut se méfier d'une vérité qui ne dérange pas. Voilà. Il faut se méfier d'une vérité qui endort paisiblement. Voilà. Vous vous rappelez un petit peu de cet extrait
Rappelle bien.
Oui, je crois bien que vous vous rappelez. Oui.
Je me rappelle bien. En effet, les deux choses qui m'apparaissaient, c'est que il nous faut chercher la vérité. Et en fait, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est pas un corpus de science, c'est pas un corpus de connaissances, c'est vraiment une personne. Et donc, est-ce que je continue à chercher Jésus ? Est-ce que je continue à chercher Jésus dans le monde, dans l'Église, à comprendre comment le Seigneur me conduit ? Comment le Seigneur conduit son Église aussi ? Et donc, il y a toute cette partie-là. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que parfois la vérité coûte quelque chose. Je pense, et parce que l'attachement à Jésus-Christ coûte quelque chose, en fait. Dans l'Évangile, ce qui m'apparaît le plus clair, c'est la figure de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'il cherche à s'attacher à Jésus. Il y a bien des moments où il y arrive, où « Seigneur, je mourrai pour toi. Tu mourras pour moi et ce soir même, tu m'auras renié. » Et on sent que dans tout l'évangile, entre Saint-Pierre et Jésus, il y a toujours une espèce de petite tension qui deviendra très féconde pour l'Église, évidemment. Mais toujours une tension, c'est-à-dire que Saint-Pierre n'est jamais complètement câblé sur Jésus. Soit il veut en faire trop. « Non, tu souffriras pas. » tu ne souffriras pas la passion, passe derrière moi, Satan. Ou alors pas assez, non, tu ne me laveras pas les pieds, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi au royaume, etc. Donc, et c'est, ce n'est qu'à la toute fin que Saint-Pierre s'ajuste, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et donc l'attachement à Jésus, il coûte parce qu'on ne voudrait pas passer par la passion, parce qu'on ne voudrait pas souffrir tel attachement, tel détachement, etc. Et donc, il nous faut apprendre, à souffrir un peu par la vérité. Même, et c'est mystérieux, ben c'est Bernanos qui disait ça, je crois, il nous faut aussi apprendre, pour aimer vraiment l'Église, apprendre parfois à souffrir un peu par elle. Pas seulement pour elle, mais un peu par elle.
Là au fond, vous ouvrez à ce grand mystère, ce mystère de la mort de Jésus, le mystère de la croix, et au fond, ce mystère de la crucifixion.
Oui, qui est une révolte pour notre intelligence. Hein. Saint Paul le dira, c'est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Et notre relation à la croix de Jésus, il faut consentir à ce qu'elle soit très pauvre. Parce qu'au pied de la croix, les apôtres, ils ne sont pas là. Il n'y a que Saint Jean. Et c'est très touchant d'ailleurs, ici à Lourdes, de le dire, mais
avec Marie.
Saint Jean, il est au pied de la croix parce qu'il est près de Marie, justement. L'évangile dit, au pied de la croix se tenait Marie, sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. On a l'impression que Saint Jean est près de Marie et pas tellement près de Jésus. Enfin, il est près de Jésus parce qu'il est près de Marie. Et en fait, la seule façon d'être présent près de la croix, c'est d'être près de Marie. En fait, les autres qui ne sont pas près de Marie, ils ne sont pas là.
Donc, il y a un mystère qui se joue. En fait, il y a le mystère au fond de la mère qui est donné au pied de la croix.
Exactement. Et c'est elle qui permet, c'est la maternité de Marie, hein, qui nous permet de tenir debout dans la croix. C'est le Stabat Mater. Elle tient debout. Les apôtres sont par terre, sont pas là. Et ceux et celles qui sont près de la croix de Jésus, c'est parce qu'ils sont près de cette mère qui tient debout.
Là, vous donnez, je dirais, une clé peut-être pour traverser le temps d'une crise ou des crises, oui. C'est de ne pas perdre la main de Marie.
De Marie, oui, la main de Marie.
C'est aussi peut-être l'un des secrets pour traverser, je dirais, ces mystères ou ces enjeux d'une vie où les épreuves parfois sont multiples.
Je pense que c'est un enjeu fort parce qu'on cherche toujours, c'est un peu le même sujet que celui qu'on a abordé hier, on cherche toujours à avoir une visibilité très claire, très forte, et on pense trouver notre salut et notre issue dans cette visibilité. Or, ce n'est pas là qu'il se trouve, c'est dans la croix et dans la présence auprès du Christ. Ici, à Lourdes, c'est, pour moi, ça m'apparaît très fortement depuis que je suis là, depuis 6 mois, que Marie n'est pas apparue dans le ciel comme à Fatima, elle n'est pas apparue dans une église comme à la rue du Bac, mais elle est apparue dans une grotte. C'est dans une voie sans issue, en fait, dans une impasse. Elle est apparue dans une cavité sombre. Voilà, et le lieu où elle apparaît, ça dit quelque chose. Donc, objectivement, la grotte de Lourdes, c'est une impasse. Mais parce que Bernadette s'est approchée de Marie, ou plutôt Marie s'est approchée de Bernadette...
Et Bernadette source, s'est laissée approcher par
s'est
Marie.
Elle s'est laissée rencontrer, alors une source a jailli. Mais le fait que le ciel se soit ouvert dans une grotte, ah, je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire, ça veut dire que notre salut, il est en Jésus. Il est dans notre confiance en Marie aussi, et il n'est pas dans la connaissance qu'on peut avoir, etc. Mais par contre, c'est clair que le fait de consentir à ne pas avoir de visibilité ou à être près de la croix, ça coûte quelque chose.
Alors ouais. C'est un peu un imprévu aussi. On ne connaît pas un peu le calendrier, ce qui va se passer pour nous. C'est
alors,
cette peur aussi. Hein. Voilà, on ne connaît pas.
Un, on ne connaît pas. Et deux, il faut assumer. Alors, ça, c'est voilà, plus l'objet du chapitre. C'est deux, il faut assumer aussi l'incompréhension et les moqueries du monde. C'est-à-dire que quand Bernadette s'avance dans la grotte et revêt son visage de boue, la foule se moque et s'en va. Elle est même giflée par sa tante. Parce que le témoignage de Bernadette qui communie à la passion de Jésus n'est pas recevable pour le monde. Et donc ça veut dire aussi que nous, dans notre attachement à la vérité, au Christ, à l'Église parfois, notre témoignage n'est pas compris et moqué par le monde, et le monde s'en va.
Alors si vous aviez peut-être une question, je dirais, à renvoyer peut-être, qui inviterait l'auditeur à méditer jusqu'à demain, et ça sera notre dernier entretien dans cette série, quelles seraient un peu les deux, trois bonnes questions pour inviter vraiment une réflexion, une méditation?
Moi, c'est une question que je me pose souvent, c'est en ce moment, dans ma vie de tous les jours, qui marche après qui? Est-ce que c'est moi qui marche devant Jésus et je me retourne pour savoir pourquoi il ne suit pas? Ou est-ce que c'est lui qui est devant et j'essaie de le suivre? Et y compris si je ne comprends pas très bien l'itinéraire ou s'il est assez brumeux. Voilà. Mais qui marche après qui? Est-ce que c'est Est-ce que je requiers, est-ce que j'exige que Jésus marche derrière moi? Ou est-ce que moi, je ne m'aimais pas dans ses pas à lui? Voilà. Ça fait une question, mais c'est pas mal.
Au fond, est-ce que, voilà, quel est, est-ce que je suis un humble serviteur?
Et est-ce que je suis derrière lui?
Est-ce que je suis derrière lui? Ben, oui, ça, c'est une très, très bonne. Oui, c'est une très bonne question, une grande question. Merci, donc, Maxence Bertrand.
Avec joie.
Merci. Rendez-vous demain à la même heure.